Histoire des îles Marquises, de Akakayo te Henua Enana, te Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, ka ohanui, et bienvenue dans cette 9e émission.
Édition 2023.
La dernière fois, nous avions vu comment le pasteur Crook avait passé la fin de 1797, sa première année seul comme étranger à Tahuata. Il nous a raconté les différentes expéditions destinées à capturer des victimes humaines et la mort violente qui leur était réservée. Dans une prochaine émission, après le départ de Crook, nous ferons une pause historique et à l'aide des nombreux documents dont nous disposons, nous essaierons de comprendre ce qui rendait si important les sacrifices humains et la dégustation de certains cadavres aux yeux des Enana Enata. Aujourd'hui, nous allons suivre Crook jusqu'au mois de mai 1798, époque à laquelle, craignant pour sa vie, il est parti définitivement sur Nukuhiva. 1798 donc. En janvier, la récolte des fruits à pain, les mei, est très abondante. Crook commence à construire sa maison en bas de la vallée de Waitahu, sur le Paipai Hitihiti, ainsi nommé en mémoire du Tahitien Hitihiti, qui était arrivé dans la baie avec Cook en 1774. Il se fait aussi construire une pirogue pour pouvoir aller à la pêche. Ce mois-là, les Ahutini de Tutete envahissent Anapo'o et Anamiai, dont ils détruisent les cocotiers. Tainai réussit à les en chasser. En février, le capitaine Azadoch, sur l'Alexander, fait une escale de 4 jours à Waitahu venant de Boston. Il rencontre Crook, qui lui remet une lettre pour ses supérieurs de la LMS. En outre, le navire dépose un Hawaïen nommé Sam, appelé Tama par les Enata. Il deviendra protecteur et toa de Tainai. Ayant vécu à Boston, aux USA, il est la première personne pouvant parler intelligiblement aux Enata, des étrangers Hao'e et de leur pays. Arrivé avec une malle de tissu de couleur, il possède des rudiments d'art militaire et excelle au lancer de javelot ainsi qu'au maniement de la fronde. Il est en outre vêtu d'un uniforme écarlate dont la couleur réservée au chef normalement fait un fort effet sur les Enata qu'il appelle Ta'aka'i'e, lance d'orgueil. Il s'entend bien avec Crook et encourage les Enata à le traiter aussi bien que lui-même. Malgré cela, Crook ne fait aucun progrès, ni dans son entreprise d'enseigner aux enfants à écrire, ni dans ses tentatives de transmettre quelques notions de christianisme aux Enata. À la page 109 de son livre « Réflexions sur une terre muette » déjà cité, le spécialiste Greg Denning cite les propres paroles de Crook. Les Enata refusent de croire à ces histoires sur les limites de la terre. Ils se moquent de l'ignorance et de la pauvreté du monde extérieur qu'ils croient sans arbre à pain ni femme. Si on leur enseigne la lecture, ils s'attendent à en être récompensés. Les Enata pensaient que c'était lui, Crook, qui avait besoin de connaître leur Dieu, et non l'inverse. Et pourquoi les Marquisiens croyaient-ils que les étrangers venaient d'un pays où il n'y avait pas de mei et pas de femme? Ben, tout simplement parce que c'était ce qu'ils venaient chercher sur les îles Marquisiennes. De la nourriture, donc, la nourriture principale étant le mei du mei, c'est-à-dire le fruit de l'arbre à pain, et des femmes, parce qu'ils étaient restés des mois et des mois sans en rencontrer sur leur navire, et que par conséquent, à la première escale, ils se jetaient littéralement sur ces femmes, dont certaines venaient à bord pour essayer de récupérer un peu de matériel. En mars, Tainai décide de former une alliance avec le chef des Pikina de l'ouest de Hiva'oa, Epo'einui, qui fiance sa fille, encore bébé, au fils aîné de Tainai Pahivi, celui qui avait échangé son nom avec Crook. Ce dernier se joint à la famille de Tainai pour se déplacer en grande pirogue à Hiva'oa. En raison de la houle, ils font escale dans la baie nord de Hanamenin, où sont célébrées les dernières festivités des funérailles de Uni'einui, dernier grand chef des Uavai ou Uavai, petite tribu indépendante du nord de Tahuata. La troupe reprend la route le lendemain et atteint Hiva'oa. Après avoir offert de nombreux cadeaux et confirmé l'engagement et l'alliance future entre les deux enfants, les voyageurs retournent à Waitahu. Devenu Toanui de Tainai, c'est-à-dire chef de ses guerriers, Tama conseille à ce dernier de cesser les querelles avec les Ahutini de Tutete et de s'unir pour attaquer les Naiki d'Atuona à Hiva'oa, ennemis des Pikina et des autres tribus
de Ta'au.
Les deux Hakaiki réunissent 900 guerriers et 30 grandes pirogues. Ils quittent Waitahu et attaquent Atuona, puis reviennent avec un seul cadavre, sans avoir souffert de pertes. En avril, Crook se rend à Anateio sur la côte est de Tahuata. Il en revient avec la nouvelle flotte préparée par les Ahutini. Ils rejoignent les pirogues Hema à Waitahu et, avec des forces supérieures au mois précédent, ils partent attaquer à nouveau les Naiki d'Atuona, avec un résultat beaucoup plus sanglant, puisque le neveu de Tainai, Tiatete, est tué et que Tama est grièvement blessé par une pierre provenant d'une fronde ennemie. 4 Naiki capturés par les Ahutini sont renvoyés chez eux après avoir été scalpés. C'est la deuxième fois que ce genre d'épisode est signalé. Quand des ennemis étaient capturés dans le but d'être sacrifiés, certains se trouvaient protégés par des liens familiaux que l'on reconnaissait à la dernière minute. On les relâchait donc après les avoir scalpés. Attention, on ne leur coupait pas les cheveux, non. On détachait l'ensemble de la chevelure et du cuir chevelu, ce qui laissait le crâne presque à nu.
Après coup, les scalps étaient exposés dans les cases des chefs ou bien ces derniers les portaient à leur ceinture.
Le mot marquisien « ihite'e », littéralement « pelé cru », qui se trouve à la page 141 du dictionnaire d'Ordillon et qui décrit cette technique, ne laisse aucun doute sur l'opération chirurgicale effectuée. Et quand on connaît l'importance portée à la tête par les anciens marquisiens, en plus de la douleur physique endurée, on peut comprendre le déshonneur et le désarroi ressenti par la victime d'une telle atteinte physique. Mekiu, mekiu mai, inoho anato uati, nati tapue ahi, toia e pohe nua. Mekiu, mekiu mai, inoho anato uati, nati tapue ahi. Toia e pohe nua Ihea, tō e kahi e ia Ihea, tō e tapu ia Ihea, tō e toa nui ia Wa tōwha I roto te mana o te moni Me kiu
Nati tapu e ahi to ia e pove lua me kiu me kiu mak i noho ana to uati na tita pue a ahi to ia e pove lua zine kai watau inui te haka tu o to uati Pai de Tapunui, na timana o temoi e a mavi. Pai de Tapunui, na timana o temoi e a mavi. Pai de Tapunui, na timana o temoi e a mavi.
Après avoir évoqué la technique qui consistait à scalper des ennemis avant de les relâcher quand on reconnaissait leur lien de parenté, je vous propose une autre coutume marquisienne concernant le tapou, ce caractère intouchable dont bénéficiaient les chefs, et caractère sur lequel nous aurons l'occasion de revenir en détail un petit peu plus loin, pas dans cette émission mais dans une autre spéciale, au cours de laquelle je réunirai tous les documents nécessaires à l'explication du rôle du haka iki et le rôle du tapu, ainsi que l'organisation des fêtes koika et les cérémonies de sacrifice humain. Il y avait des circonstances exceptionnelles où le chef renonçait à son tapu pour en faire bénéficier quelqu'un de cher ou de proche. En avril 1798, donc, une des sœurs de Tainai,
qui se nommait Naoho,
avait une fille qu'il chérissait particulièrement,
qui se nommait Hanao Tahinaotia,
et il se rendit chez elle pour son accouchement à Hanateio, à Tahuata.
Comme c'était son petit-neveu, pour lequel le nom de Tuhuaiu avait été choisi,
Tainai voulait vraiment que cet enfant prenne une place importante dans la suite des événements. Sa qualité de chef le rendait tapu. Et pour devenir non-tapu, il s'est enduit le corps d'huile de curcuma
Eka.
Et il a pu ainsi, non pas seulement participer à l'accouchement, mais s'allonger carrément sous la natte de sa nièce au moment de l'accouchement. De la sorte, la tête sous les jambes d'une femme, la naissance se passant au-dessus de la tête du chef, l'enfant prenait une importance particulière. C'est Greg Denning qui nous cite cet épisode à la page 81 de sa réflexion. On voit, mais on en reparlera plus tard, que le caractère tabou n'avait rien définitif et que les marquisiens savaient utiliser le bon sens pour y mettre fin et pouvoir ne pas en être esclave. Si le tabou ne convenait pas, eh bien, on l'annulait et on créait une autre situation plus accessible. À la fin avril, début mai, Crook dit subir les pressions d'un Italien débarqué sur l'île où il fait régner la loi par la violence, possédant des armes. Il a convaincu Tainai de se débarrasser de Crook et de prendre d'assaut tous les vaisseaux se présentant dans la baie, de les piller, de les détruire et de tuer leurs occupants. Au cas où un navire se présente, Tainai a interdit à sa population de s'en approcher et doit en personne monter à bord le premier afin de le guider dans la baie, promettant l'approvisionnement de sa vallée qui est en réalité en pleine période de disette. Or, le 21 mai au soir se profile à l'entrée de la baie de Waitahu le navire Betsy
ou Betsy, un navire américain faisant le commerce de pelleterie.
Qu'est-ce que c'est ? C'est le commerce des peaux.
Les côtes ouest du Chili et du Pérou sont parsemées de nombreuses îles où les otaries à fourrure vivaient par dizaines de millions. C'est à cause de la qualité de cette fourrure que ces animaux étaient pourchassés. Certains navires pouvaient en tuer jusqu'à 15 000 en quelques jours. Ils les rapportaient ensuite en Amérique ou en Europe, et même en Chine, où l'on en fabriquait de confortables manteaux de fourrure.
Le navire Betsy est commandé par le capitaine Edmund Fanning, qui raconte d'ailleurs cet épisode dans son journal. Comme prévu, aucun Enana ne monte à bord, mais Crook, secondé par le chef Faiki Uehue, proche de Tainai, mais opposé à ses projets, se prépare à se rendre sur le navire en pirogue depuis une partie éloignée de la côte. Il a quitté sa maison si précipitamment qu'il y laisse tous ses effets personnels, ses vêtements et son journal, qui seront retrouvés intacts par Edward Roberts
en janvier, février ou mars 1799.
Le 22 mai dans la matinée, Tainai se rend à bord du Betsy avec un proche pour guider le navire et l'encourager à s'approcher de la plage. Il quitte le navire vers 14 heures au moment où un grain s'abat sur la baie. Peu après, Crook et Faiki Uehue, qui ont observé la scène de loin, profitent du grain pour quitter leur cachette et s'approcher du navire, qui met en panne en les apercevant. Depuis sa pirogue, Crook se présente, se clamant en danger, et les deux hommes montent à bord, où Crook explique à Fanning la situation sur l'île et le piège dans lequel ils allaient tomber. Crook explique aussi à Fanning la position des autres îles et convient de le conduire à Nukuhiva. Il fait ses adieux à Faiki Uehue, auquel il fait promettre de prévenir du danger les prochains navires, ce que l'homme fera vraiment, en particulier au bateau Butterworth et au New Euphrate, en décembre 1798, quelques mois après, leur évitant des ennuis majeurs pendant leur séjour de 3 semaines. On donne à Faiki Uehue des outils et de la verroterie. Avant de rentrer, il fait promettre à Crook de revenir dans quelques lunes, mais ce dernier ne reviendra qu'en 1826. Après le départ de Faiki Uehue, Crook quitte son hami, son ceinturon traditionnel, et Fanning lui fait choisir des vêtements européens, et puis le Betsem et les voiles pour Nukuhiva. En déplacement à Hivaoa, Tainai est furieux d'apprendre la nouvelle du départ de Crook. D'ailleurs, son séjour se termine mal. À la suite d'une querelle, 4 Ahutini sont tués par les Pikina, leurs alliés. En représailles, les Tahuata en massacrent un grand nombre, dont leur chef, Epoeinui. Alors que son corps et ses ornements sont triomphalement rapportés à Vaitahu, son épouse et sa fillette, récemment fiancée au fils de Tainai, sont épargnés. À leur retour, 4 Pikina qui se trouvent sur place à Vaitahu réclament les ornements de leur chef, mais ils sont immédiatement exécutés par Puta, le plus jeune frère de Tainai. Et ces événements tragiques mettent fin à l'alliance de Tahuata avec les Pikina. Le 23 mai, après avoir longé Huapou, le Betse fait une courte escale à Vaiehu, sur la côte ouest de Huapou, là où Marchand s'était arrêté d'ailleurs en 1791. Crook descend à terre en pirogue avec Fanning, et ils sont reçus par Oieinui, qui leur fait apporter du poisson, des meilles et des noix de coco, et auxquels de menus cadeaux sont offerts en échange. Oieinui dit qu'il les rejoindra le lendemain à Nukuhiva. De retour à bord, Crook rédige une lettre expliquant sa situation à ses supérieurs, les directeurs de la LMS. Il la confie au capitaine Fanning. Le 24 mai, Crook débarque à Taiohae, mais c'est une autre histoire que nous verrons la prochaine fois. Avant de conclure, et c'est seulement en préparant cette émission que je l'ai découvert, 3 noms de chefs cités dans cet épisode se terminent par Einui. À l'intention des non-marquisianophones, je signale que ce mot signifie « celui qui possède de nombreuses dents de cachalot ». Porter un nom précisant cette richesse démontre l'importance de cet objet très convoité et qui, jusqu'en 1815 au moins, était le seul contre lequel les chefs consentaient à échanger leur porc. Chers amis, ne manquez pas la suite du séjour du pasteur Crook aux îles Marquises. La prochaine fois, nous participerons à ses premiers pas aux côtés de Kiato Nui et de sa famille et nous le suivrons tout au long
de la deuxième moitié
de l'année 1798 à Nukuhiva. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Teeo et sur mon site internet teeo.com. Et merci au groupe Kave Emuetai pour sa chanson
Te Tapu Nui, le grand tabou, qui demande aux Marquisiens où sont passées leur fierté et leur courage et comment l'argent, ce pouvoir moderne, a pu remplacer le mana du tapu, cette loi ancestrale qui régissait la vie des anciens.
Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail
kopo@mail.pf
ou bien sur mon Vini 87 756 719. À bientôt, à Pai, au Oahu.